Bien voilà, on peut commencer. Mais nous arrivons à la dernière conférence du cycle de cette année, ce qui fait que j'ai une série d'informations à vous communiquer avant même de parler de notre conférencier de la fois passée. Certains d'entre vous ont demandé des attestations de participation. J'en ai une série ici. Je vous propose à la fin de la conférence de venir me trouver et de voir si la vôtre est dans le paquet qu'on m'a remis. Si ce n'était pas le cas, elle vous sera envoyée par la poste dans les tout prochains jours. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, certains d'entre vous m'ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par le CD reprenant tous les enregistrements des conférences de cette année. Alors j'ai reçu l'information aujourd'hui, ce qui fait que le meilleur moyen de la communiquer, c'était de mettre... On réceptionne vos paiements jusqu'au 31 mai si vous êtes intéressé. Et dans le courant du mois de juin, on vous fait l'envoi par la poste. Donc fin juin ou plus tard, vous aurez reçu le CD. Donc ça, c'était une première, une deuxième information. Alors, tant que je suis dans la foulée, je continue. On pourrait terminer par ça, mais pourquoi pas l'annoncer dès maintenant. L'équipe de conférenciers, Philippe et Lebois et moi, on a réfléchi un petit peu sur quel chemin on voudrait vous emmener l'an prochain. Et on s'est dit qu'on avait envie de vous parler d'amour. C'est un beau thème. Et on fera ça, c'est un petit clin d'œil, mais on fera ça en lisant le séminaire 8 de Lacan qui s'appelle « Le transfert ». Donc ça, c'est ce qu'on vous propose pour l'année prochaine avec le même principe que cette année en vous envoyant donc le programme des conférences. Alors, je voudrais vous demander, parce que ce qui fait que des collègues et des étudiants viennent... nous écouter, au fond, c'est aussi le côté transmission de l'information. Donc, si vous avez des collègues dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés, surtout n'hésitez pas à transmettre par mail ce qu'on vous envoie. J'ai aussi apporté des dépliants qui restent de cette année. Si vous voulez en prendre quelques-uns pour les donner en disant « Tiens, moi, cette année, j'ai fait ça, ça continue l'an prochain », surtout n'hésitez pas, nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors, également... On réfléchit, et ça c'est une information que j'ai depuis une demi-heure, sur essayer d'ajouter une nouvelle activité par rapport au cycle de conférences, et j'ai eu l'accord de principe de Yves de Pelsener qui a écrit tout dernièrement et publié le livre « Un musée imaginaire lacanien ». Donc Yves de Pelsener est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, mais il est aussi passionné par l'art contemporain. Et on est en train de travailler à la mise sur pied d'une visite guidée du MAX, ici au Grand Ornu, donc le musée d'art contemporain de la région. L'idée étant grosso modo, mais c'est en projet, donc on vous donnera plus de détails l'an prochain si ça aboutit, mais tout semble converger pour l'instant. Une visite guidée donc avec un guide du musée, dont c'est le métier de présenter les œuvres d'art, et puis les commentaires plus orienté psychanalyse de Yves de Pelsener. Et donc ça, ce sera une occasion de se retrouver en dehors du cadre des conférences pour ceux qui le souhaitent et de suivre cette visite. Alors, je vais essayer de résumer, même si ce n'est pas évident, la conférence de Bernard Senave de la fois dernière. Je dis que ce n'est pas évident parce que Bernard Senave nous a fait vraiment le cadeau de remettre en perspective l'ensemble des conférences qu'on a faites jusqu'à présent. Et donc, au fond, il a pointé en introduction le fait que ce séminaire 4, c'était finalement un séminaire sur la sexualité féminine, ou pour le dire autrement, quelles sont les conséquences de cette sexualité pour tout sujet, pour autant que chaque sujet est fils d'une mère. Ou autrement dit, comment l'enfant va-t-il pouvoir se débrouiller avec son manque, donc celui de la mère, en tant que sujet féminin, et que Freud a défini comme étant le penis neid. Et au fond, c'est ce qui va tramer tout ce séminaire auquel on arrive maintenant à son terme. Et donc, en fait, Bernard Sénave nous a montré que tout ça débouchait sur finalement la mise en place de la métaphore paternelle. Alors, il nous a rappelé dans ce que l'on a parcouru qu'au fond, Lacan nous montre qu'il y a trois sortes de manques et que ces trois sortes de manques s'inscrivent dans trois registres différents. Registres et manques et objets que j'ai repris dans le tableau qu'il avait lui-même inscrit il y a deux semaines ici. Et que, au fond, d'où est-ce qu'on vient dans cette analyse de cas du petit Hans ? On est à un moment où on se situe nettement dans le registre imaginaire et où il s'agit donc d'un manque imaginaire d'un objet réel au départ dans la cure du petit Hans. Et que la question du petit Hans va être comment sortir au fond de cette relation mère-enfant et phallus et à quel moment aussi il va s'apercevoir que ce que sa mère désire en lui, c'est son image phallique à elle, la mère. Alors, il nous a également montré que dans ce que Lacan nous apporte dans ce séminaire, c'est au fond toute l'articulation du complexe d'Œdipe et du complexe de castration dans ce cas ici. Alors, le petit Hans, au fond, au départ, il est dans une solution imaginaire par rapport à sa mère, et tout ça va être bousculé, tout son équilibre, tout ce qu'il a pu construire jusqu'à un certain moment va être bousculé par la survenue de deux éléments dans sa vie d'enfant. Tout d'abord, la naissance d'une petite sœur, et ensuite, finalement, un surgissement de la jouissance, puisque, au fond, son fait pipi, comme il dit, commence à faire des siennes, et qu'il est aux prises avec ce côté bien réel du corps. Alors, ces deux éléments font que la solution imaginaire qu'il avait mise au point jusque-là ne tient plus la route, et que pour répondre à ce déséquilibre, au fond, il va mettre en place toute une série de petits fantasmes dont on a parlé dans certaines conférences, qui constituent une construction mythique pour lui et qui permettent au fond, à travers la phobie qu'il va développer autour du signifiant cheval, de redonner des repères petit à petit à son univers. Et pourquoi est-ce qu'il en passe par là ? Parce que dans la constellation familiale, j'ai envie de dire, eh bien, Lacan pointe très clairement que le père est carent et qu'il ne remplit pas cette fonction du nom du père qui permet justement d'articuler complexe d'Œdipe et complexe de castration. Et Lacan nous amène à se poser la question, au fond, qu'est-ce qu'un père ? Et il repère trois éléments, je dirais, importants. Le premier est de dire que si l'expérience analytique a montré quelque chose, c'est bien que tout rapport humain est fondé sur une investiture qui vient sous la forme de l'autre. Cet autre est d'ores et déjà en nous sous la forme de l'inconscient. Une deuxième précision est de dire que rien dans notre propre développement ne peut se réaliser si ce n'est à travers une constellation qui implique l'autre absolu comme siège de la parole, et qu'enfin, si le complexe d'Œdipe a un sens, c'est précisément parce qu'il se donne comme fondement de notre installation entre le réel et le symbolique. Alors donc, pour sortir de cette impasse, il faudra en passer par le complexe de castration, et Bernard Sénave, parcourant ces séances, nous montre au fond, d'une part, le rôle de la métaphore. J'ai fait exprès de mettre paternel entre parenthèses, parce que l'exemple qui l'amène, c'est, et d'ailleurs il nous en a fait la lecture, c'est le texte de Victor Hugo, Beauce endormie, comme exemple de la métaphore en général, et exemple de la métaphore paternelle en particulier. Et donc, Lacan commence à formaliser, au fond, cette métaphore paternelle sous forme d'un matin que j'ai repris au tableau à l'avant-dernière ligne. Alors, cette écriture de la métaphore paternelle permet à Lacan de montrer au fond dans quelle situation le petit Hans se trouve et ce qui, au fond, ne fait pas arrêt pour lui à cette mère d'un certain côté dévorante. Je regarde ce que je vous ai écrit aussi. Oui, et donc je pense que je vais tout doucement en rester là, mais peut-être dire que dans tout ça, au fond, la phobie du petit Hans peut s'écrire également sous la forme de la métaphore paternelle et vient remplir donc ce rôle de délimitation de sa mère à lui, de séparation, que la solution qu'il aura mis au point au terme de sa cure, de son trajet analytique à travers son père et le lien à Freud, n'est pas une solution qui est parfaite, loin de là, mais c'est en tout cas une solution qui va lui permettre petit à petit de prendre distance par rapport à sa phobie et de pouvoir, au fond, lorsqu'il sera un sujet adulte, d'abord de ne plus se souvenir de tout ce parcours qu'il a fait et ensuite de se retrouver dans une position au fond qui sera comment dire, où on pourra dire que le sujet n'est pas passé par le complexe de castration complètement mais par une autre voie, qu'il dispose bien du nom du père. Mais que ça va quand même l'installer dans un rapport singulier avec les femmes, à savoir qu'il va notamment instaurer une paternité imaginaire. Il dira qu'il aura des enfants, mais que ce seront des enfants imaginaires. Et donc il est, dit Jacques-Alain Miller, cité par Bernard Sénave, fondamentalement dans une position féminine, à tel point que Lacan le désigne comme la fille de deux mères. Et on sait du petit Hans qu'il gardera au fond de son parcours un registre imaginaire bien développé, puisqu'il se tournera vers l'art, la poésie et la mise en scène. Donc, nous dit finalement Bernard Sénave, une solution bien honorable, mais pas parfaite, entre guillemets, en termes de résolution des complexes. Alors, ce soir, nous accueillons Jean-François Lebrun, qui va nous parler du petit Hans à Léonard de Vinci, c'est-à-dire de la dernière séance du séminaire, la séance 24. Et Jean-François Lebrun est psychanalyste ici à Mons. Il est également consultant à l'hôpital de Bon Secours et intervenant au Courtil à Tournai. Et je lui cède la parole. Merci.
Merci. On entend ? Alors, comme vous avez bien résumé, au fond, tout le parcours, ça va me permettre de démarrer directement sur Léonard. Hein, vous avez bien ramené tous les éléments avec quoi le petit Hans termine sa cure, au fond. Je voulais simplement ajouter un petit truc, c'est que lorsqu'on dit que le séminaire 4 montre les incidences de la sexualité féminine pour tout sujet, il faut vraiment entendre pour tout sujet, y compris pour la dame en question. Je viens encore avoir l'occasion d'avoir une situation ce matin d'une dame qui, à la suite de l'enfant dont elle vient d'avoir il y a 2 ans, elle a perdu son travail, le couple est en train de fiche le camp, le monsieur ne la regarde plus, une dame qui pourtant avait fait des études supérieures, avait exercé sa profession pendant quelques années, très, très intégrée dans la société, et puis voilà que elle était, au fond, on parle de la mère dévorante, la mère lacanienne, elle était dévorée elle-même par la relation avec son enfant. Et à telle enseigne que finalement, n'en pouvant plus, après avoir été consultée qui un psychiatre, qui un psychologue, ben elle s'est retrouvée en clinique neuropsychiatrique. Bon, alors Lacan fait le rapprochement dans cette dernière séance entre la situation du petit Hans, sa situation terminale, et celle de Léonard de Vinci. Et il évoque le tableau célèbre de Léonard de Vinci, intitulé Sainte-Anne en tierce, qui se trouve au Louvre et qui représente Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant. Alors, pour ne pas parler dans le vide quand même, je vais, pendant le temps de l'exposé, faire circuler un livre avec des reproductions. Vous verrez, j'ai mis des petits papiers où on peut tourner les pages. Et je vais également faire circuler quelques photocopies des deux œuvres les plus importantes qui ont rapport avec Sainte-Anne. Ah ben voilà, merci. Pourquoi est-ce que Freud s'intéresse à un Léonard ? D'abord, Freud était connaisseur dans la peinture de la Renaissance, du Quattrocento, etc. Et il prévient d'entrée de jeu dans son livre. Et il dit ça très littéralement, ce n'est pas pour noircir ce qui rayonne, ni traîner le sublime dans la poussière. Ce n'est pas pour ça. Il veut simplement comprendre, car quelque chose chez Léonard de Vinci l'intrigue. Ce livre de Freud, publié en 1910, est celui auquel il tenait peut-être le plus. Et il fut très mal reçu par la critique à l'époque. Il a été critiqué pour certaines erreurs et aussi pour l'interprétation psychanalytique qu'il comportait. Léonard, c'est un personnage très idéalisé, qu'on a présenté comme un génie universel. Freud lui-même le voit comme un des grands de l'espèce humaine. S'il est un génie, il y a cependant en lui quelque chose d'énigmatique. Un curieux mélange d'échecs et de réussites. Une extraordinaire curiosité intellectuelle d'une part, mais aussi d'autre part, une fâcheuse tendance à l'inachèvement de ses œuvres. Des œuvres inachevées, mais aussi plusieurs de ses œuvres perdues. Des portraits, des fresques, dont la peinture s'est détachée de l'enduit, parce que Léonard, une fresque, ça doit être pratiqué dans le frais du plâtre. Comme Léonard était très lent, lorsqu'il en arrivait au bout de son travail, c'était trop séché et donc l'enduit ne tenait plus. Il y a aussi une très grande statue équestre à laquelle il travailla durant des années et qui ne fut jamais coulée. Alors, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Léonard est né en 1452 et il est mort en 1519, donc à 67 ans. Il est un enfant naturel, le fils naturel de maître Pierre de Vinci, un notaire, qui tenait son nom de la localité du même nom, Vinci, et d'une servante, Catharina. Tout ce qu'on sait, c'est que vers l'âge de 5 ans, peut-être un petit peu plus jeune, il fut retiré à sa mère. Et donc son père va l'élever avec sa femme, Albiera. Donc il est retiré à sa mère. Et son père le prend dans le foyer avec sa femme légitime. Son épouse Albiera, elle n'avait pas d'enfant. Léonard ne parle presque jamais de sa mère, mais on pense qu'elle l'a suivi à peu près toute sa vie, qu'elle passa ses dernières années avec lui et qu'il assista à son enterrement, donc sa véritable mère, Catharina. Alors, à 15 ans, Léonard devient apprenti chez Verrocchio, le peintre Verrocchio, et sera même plus tard son associé. Il va se retrouver au service du duc de Milan, Ludovic le Mort, qui eut pour lui un rôle de substitut paternel. Léonard lui servit d'homme à tout faire, maître de cérémonie, organisateur de fêtes, ingénieur. Il fait le portrait de ses maîtresses. Il lui prépare donc cette grande statue équestre. Plus tard, Il fera ensuite les peintures les plus célèbres, pour lesquelles il est surtout connu. La Sainte Famille, donc Mona Lisa, Saint Jean-Baptiste, Bacchus. Invité en France par François Ier, il passe en France les dernières années de sa vie. Il y a pour Freud une tension chez Léonard entre le peintre et le chercheur. Et les recherches scientifiques auxquelles il se livrait auraient porté préjudice au peintre, c'est l'idée de Freud, et l'aurait empêché de s'abandonner à son génie. Dans ce livre, Freud s'étonne de certaines caractéristiques du personnage. Voilà une déclaration d'un de ses élèves. On aurait dit, donc il parle de Léonard face à son travail de peintre, on aurait dit qu'à tout moment, il tremblait quand il se mettait à peindre, et pourtant, il ne terminait jamais aucune des choses qu'il avait commencées. Ayant si fort en considération la grandeur de l'art qu'il apercevait des erreurs dans des choses qui, à d'autres, faisaient figure de miracles. Donc, il n'en finissait pas de fignoler et de refignoler, voyant des défauts là où les autres s'extasiaient, quoi, c'est ça. Hein. Autre élément, donc, que j'ai déjà mentionné, il travaillait avec une grande lenteur pour peindre la Seine, par exemple. On raconte qu'il montait dès le petit jour sur l'échafaudage pour ne l'abandonner qu'au crépuscule sans manger ni boire. Ensuite, il n'y retournait pas pendant des jours et occupé ailleurs à une autre réalisation, il retournait soudain pour apporter quelques coups de pinceau à la Seine et repartait aussitôt. Et donc on a des œuvres comme ça dont la réalisation s'est étalée sur de nombreuses années. Quand on voit les différentes esquisses comportant chacune des variations de leur motif, sur un même thème, dit Freud, on ne peut pas parler de désinvolture ni d'inconstance. On remarque, écrit Freud, au contraire, un approfondissement tout à fait extraordinaire, une richesse de possibilités entre lesquelles la décision n'est prise qu'avec appréhension. Des exigences auxquelles il est à peine possible de satisfaire et, pour tout dire, une inhibition dans l'exécution qui ne s'explique pas non plus par la nécessaire distance qui maintient l'artiste en deçà de son projet idéal. La lenteur qui de tout temps a frappé dans les travaux de Léonard se révèle être un symptôme de cette inhibition, le signe annonciateur de son éloignement de la peinture qui est intervenu plus tard. Donc Freud pointe lenteur, inachèvement, inhibition. Freud en arrive à la sexualité. Chez Léonard, on ne peut pas parler dans son cas que d'un froid refus de la sexualité, écrit-il. C'est un abstinent. Les œuvres de Léonard éludent, écrit Freud, tout ce qui est sexuel, comme si l'éros, mainteneur de tout ce qui est, de tout ce qui vit, était pour le désir de savoir du chercheur la seule matière indigne. Voilà comment il écrit. Donc je vous lis un écrit de Léonard. L'acte de la copulation et les membres qui y concourent sont d'une hideur telle, sont tellement hideux, que n'était la beauté des visages, les ornements des acteurs et la retenue, la nature perdrait l'espèce humaine. Et donc, heureusement qu'il y a la beauté. Hein, la beauté des visages, les ornements, la retenue, heureusement qu'il y a des formes, qu'il y a des belles formes. Freud relie tout cela à un grand refoulement sexuel. Léonard n'a probablement jamais aimé une femme, et s'il s'entourait de beaux jeunes gens dont il faisait ses élèves, il n'avait avec eux aucun commerce sexuel. une accusation dans ce sens, donc de sodomie, portée contre lui, c'est d'ailleurs révélé sans suite, c'est un non-lieu. Alors, la thèse de Freud, Léonard avait dompté ses affects et les avait soumis à sa pulsion d'investigation. Il aurait donc fait passer l'éros, ou Cupidon, si vous voulez, dans sa cupido sciendi, dans son avidité à savoir. Pour Freud, il y a dans l'orientation de Léonard une sublimation, c'est-à-dire que la pulsion sexuelle a chez lui échangé son but immédiat, donc la satisfaction sexuelle, contre d'autres buts non sexuels plus élevés dans l'échelle des valeurs. Ça, c'est le schéma freudien. L'investigation infantile, sexuelle, se porte d'abord sur la question de l'origine des enfants. Elle fait ensuite l'objet d'un refoulement. Dans le cas de Léonard, le refoulement n'a pas empêché que la libido se sublime en avidité à savoir. Donc, poussé de sa voix, dirigé vers le monde extérieur. On a de fait des notations de Léonard qui témoignent de son admiration devant le monde naturel, d'où son effort dirigé vers la compréhension des lois du monde physique, la lumière, la perspective notamment, le monde animal, les plantes, tout ce qu'il était amené à figurer dans ses peintures. Il fut ainsi entraîné vers la découverte de certaines lois de la mécanique. Il fit de l'anatomie, de la géologie, de la cosmologie. Il en vint à écrire avant Copernic « Le soleil ne se meut pas ». Le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Alors, cette avidité à savoir, jointe à une absence de vie sexuelle, conduit Freud à parler, dans son cas, d'homosexualité idéale. Et c'est là que Freud va aller chercher, parmi les très rares éléments d'information dont on dispose, le seul souvenir d'enfance qu'on lui connaisse. Ce souvenir, on le trouve inséré dans des papiers où il traite du vol du vautour, où il décrit la façon de voler propre à cet animal. Et pourquoi est-ce qu'il s'intéressait au vol des oiseaux? Parce qu'il s'intéressait à savoir comment faire pour que l'humain lui-même puisse voler. Et donc, il regardait comment faisait l'oiseau avec ses ailes, etc., pour décoller, descendre, etc. Je vous lis le souvenir d'enfance. Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement aux vautours, car il me vient à l'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. Ça, c'est le texte du souvenir de Freud.
De Léonard.
Par Freud. Recueilli par Freud. Merci. Voilà un souvenir très particulier, dit Freud. Et qu'un enfant se souvienne qu'un vautour a ouvert sa bouche de sa queue paraît tellement invraisemblable qu'il ne peut s'agir là que d'une sorte de souvenir écran devant un fantasme. Freud écrit une fantaisie. Bon, il y a le symbolisme phallique de la queue représentant l'organe masculin, et donc il s'agirait en fait d'un fantasme de fellation. Vous imaginez un peu, en 1910, un bonhomme qui s'appelle Freud, qui écrit un livre consacré à Léonard de Vinci, où il est question de fellation, etc. Et Freud ajoute deux constatations, le caractère passif du sujet dans la scène, et le fait que cette fantaisie ressemble à certaines rêveries d'homosexuels passifs. La construction de Freud est la suivante. Ce que Léonard a élaboré en fantasme homosexuel passif se rapporte en fait à la réminiscence de téter le sein de la mère. Freud suppose que dans sa toute petite enfance, Léonard, enfant illégitime de la servante Katharina, n'a sans doute pas eu d'autre présence que la présence maternelle, pas d'autres éléments de séduction sexuelle que ce qu'il appelle les baisers passionnés de la mère, ni d'autres objets pouvant représenter l'objet de son désir que le sein maternel. Donc Freud se représente la situation d'un enfant dans un rapport comme ça, exclusif de satisfaction réciproque avec sa mère. Mais alors, pourquoi cette représentation de la mère en vautour? Puisque c'est le vautour qui est l'acteur de cette intrusion imaginaire dans la bouche de l'enfant. Et Freud va aller chercher, comme c'est souvent son habitude, du côté de la mythologie égyptienne. Mère s'écrit chez les Égyptiens par l'image du vautour. Il y a une divinité maternelle, Mout, qui était représentée avec une tête de vautour. Et Mout résonne immédiatement pour Freud avec Mutter, évidemment, le terme de mère en allemand. Autre élément, on croyait que chez les vautours, il n'y avait que des femelles, pas de mâles. D'où le choix de cet animal comme symbole de la maternité. Et on croyait que ce vautour, à certaines périodes de l'année, il était fécondé en plein vol par le vent. En plus, certains pères de l'Église vont s'emparer de cette histoire, parce que ça mettait de l'eau à leur moulin, puisque ça leur permettait d'argumenter à propos de la doctrine de la conception virginale de Jésus. Le fait que Marie a conçu Jésus sans péché, par l'opération de l'Esprit. Si ça existait chez les animaux, ben ça pouvait bien se présenter chez les humains aussi, pourquoi pas. Comme Léonard s'intéressait aux vautours pour leur technique de vol, Freud suppose que ce fantasme s'est formé le jour où il lut que les vautours étaient tous des femelles. Ceci renvoyait pour lui au fait qu'il s'était senti privé de père dans cette relation comme ça avec sa mère. Et tout ça est articulé par le vautour mère et la fellation tétée du sein maternel. Seulement, ce qui est frappant d'ailleurs quand on lit le texte de Freud, c'est leur caractère extrêmement prudent, rigoureux de ces déductions. Si vous allez lire ce livre, vous allez voir qu'il s'agit là vraiment d'une déduction très, très rigoureuse comme ça, et ça se lit vraiment très très bien. C'est vraiment l'articulation pas à pas de déduction de Freud. Seulement voilà, une des sources sur lesquelles Freud s'était basé comportait une erreur. Celui qui avait traduit le texte italien des écrits de Léonard en allemand s'était trompé. Il avait traduit vautour pour Milan, le Milan, autre rapace. Et c'est bien d'un Milan dont parle Léonard dans ses écrits, et non d'un vautour comme il a été traduit. Cette erreur a été découverte dans les années 20-25, et elle n'a pas été divulguée tout de suite, c'est évidemment assez embarrassant. Elle n'a vraiment été répercutée qu'en 1956 par un historien de l'art, que Lacan cite d'ailleurs dans le dernier chapitre, page 421, Meyer Shapiro. Voyez ce qu'en dit Lacan de cette erreur. C'est une heureuse faute, écrit-il. Et il ajoute, et vous voyez d'ailleurs dans le chapitre qu'effectivement il a été cherché, j'ai eu un instant l'espoir que tout allait s'arranger. À savoir que le vautour de Freud, tout milan qu'il fût, en fin de compte, allait tout de même se révéler être un vautour. Et Lacan se livre à des soigneuses recherches, il trouve un vautour, un autre vautour. Mais rien à faire, le Milan n'est pas un vautour. Mais de toute façon, ajoute Lacan, ça reste une invention géniale, la démarche de Freud. Autrement dit, Freud, même s'il a dit faux parce qu'il s'est appris sur une traduction inexacte, eh bien il a atteint le vrai. C'est ça la position de Lacan et c'est ça qui est important. Les critiques de cet historien de l'art portent sur cette erreur, mais il indique quand même ceci. À la fin de son article, il va dire ceci, parlant de Freud, il dit ça. Néanmoins, sa théorie et sa méthode, donc de Freud, et peut-être plus encore sa profonde sympathie pour les aspects tragiques et problématiques de Léonard, permirent à Freud de poser d'un seul coup des questions neuves et importantes sur sa personnalité, questions auxquelles nul jusque-là n'avait songé, et qui n'ont pas encore trouvé de meilleures réponses. Il faut mentionner en outre un autre critique, Kenneth Clark, estimant, lui, profondément éclairante l'interprétation freudienne du tableau de la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne. Plus près de nous, Serge Branly, en 1988, dans son Léonard de Vinci, sa biographie, écrit que si certaines prémices sont fausses, cela ne diminue pas la valeur du raisonnement, et l'intuition parfaite qui guidait Freud a réussi à lui faire toucher du doigt les vérités qu'il cherchait. Ce que Freud donc interroge, la mère qui fait téter l'enfant est transformée en un vautour, qui met sa queue dans la bouche de l'enfant. Mais pourquoi ce vautour maternel est-il doté de l'organe viril ? Eh bien, il est de fait, poursuit Freud, que la divinité Mout, donc égyptienne, divinité féminine, est affublée dans les représentations égyptiennes d'un phallus en érection. Donc on a une divinité féminine, avec à tête de vautour et affublé d'un phallus. La solution de Freud consiste à articuler ça avec les théories sexuelles infantiles et avec l'hypothèse de l'enfant mâle consistant à postuler chez sa mère un organe masculin, un pénis. Autrement dit, Léonard s'est senti privé du père et s'est trouvé seul avec la mère pour faire face à cette question. À ce niveau-ci, ce sont des constatations analogues que Freud avait déjà faites dans les trois études sur la sexualité, qui datent de 1905. Ici, on est en 1910. En 1905, Freud articule déjà cette hypothèse du petit garçon, dont le petit garçon ne se défait qu'avec extrême difficulté, et il parle également chez la mère, chez la fille, de l'envie du pénis. Penis night, on avait parlé. Mais Lacan remarque que dans ce texte-ci, Freud fait un pas de plus. Qu'est-ce qu'introduit de nouveau l'essai sur Léonard de Vinci, demande Lacan, page 426. Réponse, il a introduit très précisément l'importance de la fonction mère phallique. On trouve en effet chez Freud l'articulation d'un lien érotique très intense avec le personnage maternel. Il dit encore ceci, par exemple. Le père manquait, si bien que le garçon était livré à l'influence féminine. Vous avez ceci. Je vous lis un petit passage de Freud qui montre cette dimension que Lacan va extraire comme mère phallique. La tendresse de la mère lui fut fatale, détermina son destin et les privations qui l'attendaient. La violence des caresses qu'évoque sa fantaisie du vautour n'était que trop naturelle. La pauvre mère abandonnée dut laisser se répandre dans l'amour maternel tous ses souvenirs de tendresse vécue, ainsi que son aspiration à des tendresses nouvelles. Elle fut poussée non seulement à se dédommager elle-même de n'avoir pas eu de mari, mais à dédommager aussi l'enfant de n'avoir pas eu de père qui voulut le caresser. Ainsi, à la façon de toutes les mères insatisfaites, mit-elle son jeune fils à la place de son mari et lui ravit-elle par une maturation trop précoce de son érotisme une part de sa virilité. Donc, voilà une façon freudienne de décrire, au fond, les incidences de la sexualité féminine sur un petit garçon. Par la suite, le garçon refoule l'amour pour la mère en se mettant lui-même à la place de celle-ci, en s'identifiant à elle et en prenant sa propre personne pour le modèle à la ressemblance duquel il choisira ses nouveaux objets d'amour. Voilà ce que Freud reconstruit de Léonard. Il est ainsi devenu homosexuel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à la place de sa mère, prenant pour nouveaux objets d'amour celui de sa mère, à savoir des petits garçons. Et donc Léonard va se tourner vers de jeunes garçons qu'il aime comme sa mère l'a aimé enfant. Et c'est là que Freud introduit pour la première fois la notion de narcissisme. Il trouve ses objets d'amour sur la voie du narcissisme. Voilà ce que dit Freud. Lacan reprend à nouveau frais cette question et il évoque les découvertes scientifiques de Léonard. Il cite un autre historien, un historien des sciences, Alexandre Coiré, qui avait fait une conférence pour le 500e de Léonard, le 500e anniversaire. Léonard a laissé des tas et des tas de notes, donc des écrits, couverts de dessins géométriques, mécaniques, anatomiques. Et tout ça était écrit en caractère inversé, c'est-à-dire qu'il écrivait à l'envers, partant de droite, formant les caractères à contresens, et on ne pouvait lire ça qu'en les regardant dans un miroir. Il a gardé tout ça secret. Et lorsque, vers la fin du XIXe siècle, ils furent découverts dans des bibliothèques, ces textes ont commencé à donner à Léonard une réputation considérable. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à en faire un génie. On en a fait le précurseur des Vésale, Copernic, Galilée, etc. Coiré reprend dans sa conférence une expression qu'on utilisait pour désigner Vinci, un uomo senza lettere, un homme sans lettres. Ce qui ne veut pas dire qu'il était illettré, mais signifie qu'il n'était pas un humaniste. Il n'avait pas fait des études. Ce qu'il avait appris, il l'avait appris sur le terrain, dans l'atelier où il s'était mis élève d'un maître. Et donc, il ne savait que la langue vulgaire, il ne savait pas les langues classiques. Il écrivait en faisant des fautes d'orthographe, il ne connaissait pas la grammaire. C'est donc un autodidacte. C'était un savoir empirique qu'il maîtrisait. Il était tourné vers la praxis, non pas vers la théorie. Donc, d'après Coiré, il est beaucoup plus un ingénieur artiste qu'un véritable homme de science. Il ne construit pas des théories, Mais il imagine des objets, des machines. Ce qu'il cherche, ce sont des solutions pratiques à des problèmes concrets, qu'il trouve à l'aide de l'intuition. Il reste en deçà du stade de l'abstraction. Tous ses travaux sont marqués de ça. Il résout pratiquement des problèmes théoriques. S'il y a un domaine dans lequel il excelle, c'est dans la géométrie. Parce que là, justement, il peut mettre en œuvre son intuition. Il a dessiné d'innombrables plans de machines en tout genre, mais on n'est pas sûr qu'il en ait réalisé une seule. C'est l'élaboration du projet, plus que sa réalisation, qui l'intéresse. Léonard est donc plus un technologue qu'un technicien, plus un inventeur de machines qu'un constructeur de machines. Et donc, il en reste en deçà d'une mathématisation du réel. Bon, pour arriver à des formules mathématiques, il faut d'abord se dégager de l'expérience pour en tirer de la théorie. Il faut se dégager de ce qu'on voit. Pour établir une physique mathématique, il faut d'abord avoir séparé du réel le symbolique. Et donc, tout l'esprit de la conférence de Coiré, c'est de montrer ça. Finalement, il ne se dégage pas de l'intuition. Pour Coiré, Léonard reste donc à une position de soumission à la nature. Lacan pointe chez Léonard une confusion de l'imaginaire et du grand autre. Si vous prenez le séminaire, là, ici, voilà, page 430. Hein. Un peu vers le milieu, deuxième partie, là. La position de Léonard de Vinci vis-à-vis de la nature est celle du rapport avec un autre qui n'est pas sujet, mais dont il s'agit pourtant de détecter l'histoire, le signe, l'articulation et la parole, dont il s'agit de saisir la puissance créatrice. Bref, cet autre transforme le caractère radical de l'altérité de l'autre absolu, qui est figuré par le schéma de Lacan, que j'ai reproduit ça. Eh bien, Léonard de Vinci, dans ses recherches entre guillemets scientifiques, il transforme ça en quelque chose d'accessible par une certaine identification imaginaire. Donc, avec du symbolique, il fabrique de l'imaginaire. Prenons le tableau de Léonard de Vinci qui se trouve au Louvre et qui s'intitule Sainte-Anne en tierce, et qui s'intitule en fait Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de voir passer les photocopies. Vous avez vu passer également l'autre dessin qui se trouvait sur le côté gauche, où on voit la Vierge, l'Enfant, Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste. On a donc deux fois le même trio. Marie, Jésus, Sainte-Anne. On appelle ça Sainte-Anne en tierce, parce que Sainte-Anne apparaît en tiers. Et ça a été. On a appelé ça l'Humanissima Trinitas, la très humaine Trinité, par opposition à la Trinité divine. C'est un thème qui va se trouver très représenté à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Il est devenu très à la mode. Pourquoi ? Sainte-Anne, tout comme Marie avait conçu Jésus sans péché, eh bien, de Sainte-Anne, on disait la même chose. On soutenait qu'elle avait conçu Marie sans tache, par miracle. Donc, Anne était vue comme l'idéal de la maternité. Elle a eu de nombreux enfants. Et donc, par extension, elle représentait quelque chose de la famille humaine cette fois-ci. Et tout un trafic d'indulgence circulait à l'époque. Donc les indulgences, c'était les formules par lesquelles les croyants pouvaient espérer raccourcir leur passage dans l'au-delà par le stade du purgatoire. Et donc quand quelqu'un faisait certaines prières face à une représentation comme ça de Saint Anand de Tierce, il pouvait s'acquérir 10 000 années de rabiot dans son passage dans le purgatoire. Alors, Meyer Shapiro reproche à Freud, et moi je ne comprends pas pourquoi, il reproche à Freud, à la suite d'un post-freudien d'ailleurs, Ernest Chris, que Lacan mentionne, d'avoir supposé que cette histoire de représenter Sainte-Anne, Marie et l'enfant était une invention de Freud, une erreur de Freud, de dire que c'est Léonard qui aurait, lui, innové en représentant ces trois personnages. Alors que si vous lisez, si vous allez lire ça, vous allez voir qu'à une certaine page, Freud écrit tout noir sur blanc que la tradition existe depuis des siècles de représenter ces trois personnages-là. Vous avez dans la photocopie de gauche, donc qu'on appelle le carton de Londres, qui comporte comme quatrième personnage Saint-Jean-Baptiste. Ben, Saint-Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la venue de Jésus. C'est un berger, on le représente comme un mouton. Il y a également chez lui l'idée d'une naissance miraculeuse, puisque sa mère, Élisabeth, dans l'historiographie, n'ayant pas d'enfant, c'est un ange qui est venu lui annoncer qu'elle en aurait un. Et donc sur le très tard, elle a eu Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste qui, plus tard, pour n'avoir pas cédé aux avances de Salomé, va se retrouver décapité. Donc, il y a quelque chose de proche entre Saint-Jean-Baptiste et Jésus. Et il y a aussi le fait que ben, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Saint-Jean-Baptiste va, lui, être... qui annonce la venue du Christ, va être décapité. Il y a quelque chose avec la mort. Alors, vous voyez dans les deux cas, vous avez vu dans les deux cas, que le dernier personnage, à l'arrière-plan, qui est Sainte-Anne, semble présider à la situation, dans une position de retrait, comme ça. Plus dans la peinture du Louvre que dans le carton de Londres. Eh bien, pour Freud, voilà représentées les deux mères de Léonard, à savoir sa vraie mère, Katharina, et ultérieurement, celle que Freud suppose être sa seconde mère, à savoir l'épouse légitime de son père, Albira. Et alors, le sourire, quand on regarde le sourire de ces femmes, eh bien, pour Freud, c'est le sourire de la Joconde, c'est le sourire de Mona Lisa, qui aurait suscité chez Léonard le souvenir de cette période idyllique passée avec Katharina, sa mère. L'idée de Freud, c'est que ces deux tableaux représentent les deux sortes d'objets sexuels de Léonard. Donc, les femmes souriantes en tant que les deux mères de Léonard, et les enfants en tant que la reproduction de lui-même dans l'enfant. On peut y relier toutes les peintures de ces jeunes éphèbes, de ces jeunes gens qu'on trouve chez Vinci. Ces figures, écrit Freud, sont de nouveau androgynes, mais non plus au sens de la fantaisie du vautour. Ce sont de beaux éphèbes d'une tendre féminité et aux formes efféminées. Ils ne baissent pas les yeux, mais ont un regard mystérieusement triomphant, comme s'il connaissait le secret d'un grand bonheur accompli qu'il faut taire. Le sourire ensorcelant bien connu, donc qui réfère à celui de la Joconde, fait pressentir que c'est un secret d'amour. Il est possible que dans ces figures, Léonard ait dénié le malheur de sa vie amoureuse et l'ait surmonté par l'art en figurant l'accomplissement du désir. Il n'y a plus qu'à reprendre ces constatations de Freud pour les mettre sur le schéma de Lacan. Mais d'abord, parlons de l'inversion chez Léonard. Au point de vue sexuel, il est dans une position donc atypique. Il s'intéresse à deux jeunes garçons, mais n'a pas d'activité sexuelle. C'est un domaine marqué pour lui par l'inhibition. Mais ce n'est pas ça qui est important pour Lacan. Voyons plutôt les écrits de Léonard. Comme je vous l'ai dit, il écrit en miroir. Et non seulement il écrit en miroir, mais en plus, dans ses textes, on voit parfois qu'il s'adresse « tu » à lui-même. Donc, il se fait lui-même l'adresse de ce qu'il écrit, comme s'il se mettait du point de vue de l'autre maternel, pour s'adresser à lui-même. Il y a des exemples comme ça, de ceci. Alors, ce qu'on peut trouver écrit dans les textes de Léonard, apprend impératif présent, deuxième personne du singulier, apprend avec Maître Lucas la multiplication des racines. Fais-toi faire deux sacs de portage, fais-toi montrer le tour par Boltraffio, laisse le livre à Maître Untel, tu devras montrer ton traité, etc. Et donc, l'inversion. Elle est ici, hein, entre le moi et l'autre. C'est ici que Lacan va figurer, au fond, ce que Freud dit. C'est-à-dire qu'on a le moi du sujet qui circule comme ça, qui se déporte là et qui s'adresse du point de vue de l'autre à lui-même. Au fond, Lacan ne fait rien d'autre que de mettre sur ce schéma la découverte de Freud. Alors, si vous voyez ce schéma de Lacan repris à la page 433, Lacan y met ici l'agneau, il met donc ici Saint Jean, ici c'est la mère phallique. Ici, c'est Sainte-Anne. Et ici, c'est le fétiche. Le fétiche, l'objet fétiche, je vous rappelle, je suppose que Bernard Senat vous en a parlé la dernière fois, c'est ce à quoi, c'est la position à laquelle Hans s'en tient, à savoir objet fétiche de la mère, suite à sa sortie de sa phobie. Alors, pour Lacan, il y a deux choses qui sont corrélatives. On a donc cette inversion, donc cette circulation ici, comme ça. Et il y a autre chose qui est corrélative à ça, c'est la sublimation. Alors, qu'est-ce que c'est la sublimation ? Je vous ai lu le texte où... Le passage où Lacan montre le rabattement du symbolique sur l'imaginaire en ce qui concerne la nature, c'est-à-dire qu'est-ce que fait Léonard ? Il essaye de faire avec le grand autre, qui serait la nature, hein, dans lequel se trouverait le secret des formules mathématiques à quoi obéissent le monde naturel, la physique, etc. Il essaye de rabattre ça là-dessus. Et Lacan dit ceci. La sublimation se marque donc dans sa position artistique et scientifique, parvenue à un degré exceptionnel d'activité et de réalisation. Alors, en quoi consiste cette sublimation chez Léonard ? Ici, je prends une phrase qui est un petit peu longue et peut-être un petit peu compliquée à la page 431. Elle consiste en une prise de position du sujet par rapport à la problématique du grand autre. Ce grand A, ou cet autre absolu, cet inconscient fermé, cette femme au sourire impénétrable. C'est cela qui s'appelle la sublimation. Voilà la façon dont une certaine expérience humaine compose avec ce terme dernier de la relation humaine qui est l'absolu, qui est ici. Comment fait cette expérience humaine, cette sensibilité esthétique de Léonard ? La façon dont elle réintroduit à l'intérieur de cela toute la vie des échanges imaginaires. Les échanges imaginaires, c'est ici que ça se passe. La façon dont elle déplace le rapport radical et dernier à une altérité essentielle pour la faire habiter par une relation de mirage. Donc c'est cela, la sublimation chez Léonard. Donc Léonard, qu'est-ce qu'il fait ? Il tente de rabattre, il aimerait bien rabattre l'axe symbolique sur lequel, qui est l'axe de l'inconscient, il aimerait bien faire ceci et rabattre ça par là et ça par ici. Corrélativement à toute sublimation de grand A, c'est-à-dire corrélativement à ce processus de naturalisation de grand A, du grand autre dernier, on essaye d'en faire quelque chose de figurable, d'abordable, une relation de mirage, etc. On voit toujours se produire au niveau de l'imaginaire une inversion des rapports du moi et de l'autre. Donc la sublimation et l'inversion sont corrélatives. D'où son écriture en miroir, d'où la même chose que l'amnésie du petit Hans. Hein. Vous savez que lorsque Freud revoit le petit Hans quelques années après, quelques années, c'est-à-dire que le petit Hans a 22 ans, je crois, eh bien Hans a tout oublié. Il a oublié toute sa phobie, il a oublié tout son bazar. Il se souvient qu'on lui a dit qu'il avait été voir le docteur Freud, mais il a tout oublié. Alors, quelle est l'amnésie chez Léonard ? Réponse de Lacan. Donc, qui est corrélative de cette sublimation. L'être s'oublie lui-même comme objet imaginaire de l'autre. Donc, en se faisant objet imaginaire de l'autre, eh bien, l'être pour la mort de Jésus, puisque c'est ça le destin de ce qui est, des personnages qui sont présentés, l'être pour la mort s'oublie dans la relation imaginaire où ça va circuler comme ça. De la même façon que l'autre absolu, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en fait une figuration imaginaire et qu'on peut encadrer, c'est le cas de le dire. Voilà, je m'arrêterai ici.
Eh bien, merci. C'est une fin de séminaire qui m'a paru d'un abord à la fois. Finalement, je me dis, on a parlé peinture tout comme on a commencé à en parler au début de la séance.
Ah ben oui.
Et peinture et le côté artistique, mais aussi... chercheur de Léonard de Vinci. Peut-être il faut éteindre le micro maintenant.
Voilà.
Merci. Et donc, voilà, moi ça me laisse en réflexion. J'ai quand même une ou deux questions. Au fond, Dans ce trajet, donc vous avez parlé de Léonard de Vinci comme un ingénieur artiste, quelqu'un qui cherche des solutions pratiques à des problèmes concrets, et en disant qu'il se situait en deçà par là d'un stade d'abstraction qu'on peut imaginer pour un mathématicien, un physicien.
C'est ça, c'est ce que Alexandre Coiré dit dans sa conférence et dont Lacan se saisit pour essayer de comprendre ce qui est corrélatif de cette inversion, c'est-à-dire un problème de quelqu'un comme Léonard pour en passer à l'abstraction. Étant resté dans le leurre imaginaire, idyllique, etc., avec l'autre maternel, comme Freud le reconstruit, le voilà en difficulté avec le symbolique, et ça se marque dans toutes ces élucubrations techniques.
Voilà, là où l'abstraction serait par contre de l'ordre d'un haut maniement du registre symbolique. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour qu'on puisse dire, si j'ai bien compris le raisonnement de Coiré, pour qu'on puisse dire que Léonard serait vraiment un personnage ayant eu une place dans l'histoire des sciences, avec Copernic, etc., etc., Galilée et autres, il aurait fallu qu'il en passe par une abstraction qui lui rende possible la mathématisation du réel.
Voilà, et alors un peu dans la même suite d'idées, vous avez relevé qu'au fond, avec du symbolique, Léonard fabrique de l'imaginaire.
Voilà.
Et ça me refaisait penser à une autre conférence où Monique Kusnirek nous avait un peu parlé du discours de la science et du fait qu'au fond, je ne vais pas le faire avec ceci, mais ça, c'est un événement de la réalité dont la science se saisit, si j'ai bien compris, par le recours au symbolique, au fond. C'est faire entrer... je me disais, comment situer cette différence-là entre d'une part ce que Léonard fait avec du symbolique, il fabrique de l'imaginaire, et le discours de la science, comment le situer par rapport à ça, à savoir que au fond le réel est pris dans du symbolique, enfin c'est d'une certaine façon, alors voilà, c'est une question, je dis pas que j'en ai eu la...
Je ne comprends pas très bien votre question.
C'est peut-être parce que j'ai dur à l'élaborer, mais au fond, quelle est la différence entre ce qu'il fait là et ce que fait le discours de la science par rapport au registre symbolique, imaginaire et
mais
réel?
Je pense, moi je ne suis pas un scientifique, mais je crois que quand on en passe à de la logique et à de la mathématique, on oublie la figuration imaginaire de ce à quoi on a affaire. Tout comme Freud ici, tout comme Lacan, Freud essaye de logifier ce qui a bien pu se passer pour un Léonard. Et donc, son refoulement sexuel affilé vers l'avidité à savoir. Et au lieu que cette avidité à savoir concourt à son œuvre de peintre, elle est venue un petit peu la supplanter à certaines époques de sa vie. C'est un peu ce que dit... Ça, c'est un peu l'hypothèse de Freud, il me semble, dans son livre. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la façon dont Lacan s'empare de ça pour comprendre les difficultés qu'un sujet pris dans le leurre imaginaire avec sa mère rencontre ultérieurement quand il doit se confronter au symbolique. Tout comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le petit Hans. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, on va m'enlever mon petit fait pipi, on va en mettre un grand. Donc, il imaginarise quelque chose, donc il se met là-dessus, sur ce qui n'a pas lieu dans le domaine de la castration symbolique. Hein, j'avais. Attendez. J'avais repris quelque chose de l'avant-dernier chapitre où on voit bien ce qui se passe pour le petit Hans. Hein. La formule normale du complexe de castration comporte que le garçon ne possède son pénis qu'à la condition de le retrouver en tant qu'il lui est rendu après qu'il l'a perdu. Hein ? Ce que Lacan reprendra dans le séminaire 5 après. Hein ? Et donc, chez Anne, ça ne fonctionne pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'imagine qu'on va le lui enlever, qu'on va lui en mettre un plus loin. C'est s'agrandir. Pour lui, c'est s'agrandir, au lieu que grandir, ce serait recevoir, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'investiture symbolique de l'autre. Et chez Hans, sa mère, il n'y a pas d'autre.
Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
Et donc, moi, un petit truc que je me suis dit dans... Donc, c'est comme ça, c'est une façon de rendre compte d'une inversion chez un Léonard. Et je me disais, donc, il y a cette substitution du moi et de l'autre, cette tentative de rabattage. Alors, il y a une théorie qui est quand même en vogue, une théorie d'allure sociologique comme ça, qui essaye de rendre compte de l'homosexualité, par exemple, comme étant le résultat d'un choix. Hein, donc on a. Et alors on vient dénoncer le fait que un petit garçon est élevé en petit garçon, une petite fille est élevée en petite fille, etc. En disant ouais, pourquoi est-ce que les petits garçons ne pourraient pas jouer avec une petite fille, pourquoi les petites filles, etc., etc. Il me semble que ici, même si Lacan ne traite pas la question de l'inversion sexuelle chez Léonard, il me semble qu'ici on a déjà un appareil pour comprendre quelque chose de l'inversion, à savoir le fait que le sujet se met à la place de son objet imaginaire, et que c'est du lieu topologique de l'objet imaginaire qui se met à se penser à son objet à lui, d'où l'intérêt chez Léonard pour les petits garçons. D'où l'intérêt chez Hans pour Anna et toute la lignée des petites Anna, toutes ces filles imaginaires, etc. Et ultérieurement, donc, les mises en scène d'opéra.
S'adresse simplement à lui-même, comme tu dis, à partir de son autre imaginaire. Lacan n'a pas souvent parlé de l'homosexualité, mais quand il en parle, c'est volontiers aussi sous ce mode-là. Il y a tout le cagide.
Oui, le cagide que je n'ai pas développé ici, parce qu'il n'est pas évoqué par Lacan encore. Voilà.
Ici, imaginaire, c'était lui-même, c'est lui-même qui l'aimait sous les aspects de qui il a. Alors, quand cette affaire aussi, son rapport à la science et au symbolique, c'est intéressant. Lacan pourrait avoir comme ça des figurants qui sont intéressants, montrer que élément sous le premier pour un scientifique, le plus vite c'est la formule mathématique. C'est là que le comment, là où on montre quelque chose, c'est à partir d'une créée du tableau noir. Et pas du tout de ce qui s'observe dans la nature, et dans la réalité. La réalité n'existe pas. Hein, ce qui existe, c'est
ce sont des formules qui ne sont pas imaginarisables. Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait une passion pour les images, pour ce qu'il voyait, etc. Absolument. C'est carnet. Gérard Bachmann a fait une conférence de la guerre là-dessus, sur le carnet de Léonard de Vinci et son goût dans sa vie sans du visible.
C'est ça. Et donc, il dessinait des machines plus qu'il ne les réalisait. Et au fond, à son époque, qu'est-ce qu'il y a ? On invente l'imprimerie, on invente la gravure, mais il n'a pas fait d'imprimerie. Et il a, je crois, fait une fois une série de gravures de planches anatomiques pour un copain. Mais donc, au fond, l'invention technique en soi, c'est pas un constructeur, c'est un type qui invente, un conceptualisateur de choses, qui imagine comme ça.
On pourrait dire qu'il est plus du côté de l'observateur, c'est-à-dire dans le visuel, que du côté de l'expérimentateur, finalement.
Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, donc ces machines, il ne les a pas fabriquées. C'est resté à l'état de plan qu'on pourrait réaliser.
Et qu'on peut imaginairement qualifier de génial, puisqu'on reste dans cette non-réalisation, finalement. Mais en tout cas, génial par la beauté.
Certainement. Donc, à l'oubli de soi dans le moi, dans les objets du moi, ben, il me semble qu'on peut dire que la psychanalyse propose un réveil.
Oui.
En tout cas, la position adoptée, la position qui est la sienne, qu'il adopte, donc dans le cadre de cet apaisement, donc dans la résolution de cette phobie, dont il ne subsiste qu'un mouton d'ailleurs, a pour effet d'oblitérer complètement donc le surgissement ici d'un cheval d'horreur. Faute d'un autre symbolique, faute d'un père réel incarnant un autre symbolique, il avait dû fomenter une tentative de substitution. Mais ça, on ne le voit plus. Et donc on pourrait écrire Hans le fétiche, maman et grand-maman.
Une autre question ? Eh bien, d'abord, je voudrais remercier Jean-François Lebrun d'avoir clôturé le cycle de cette année avec nous et vous remercier tous très chaleureusement pour le parcours que nous avons fait ensemble. Voilà, merci beaucoup et à l'année prochaine peut-être. Au revoir.